BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Tout pour investir, votre TPI sur BFM Business, votre bibliothèque d'investisseurs. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, bien évidemment podcast. Alors l'été commence chaud, l'été va rester chaud, on sent que la volatilité est bel et bien là sur les actifs financiers. Pas mal de sujets qui vous préoccupent. On continue à parler notamment des fameux produits structurés. On se souvient du coup de gueule de Karen-Laure Mregen qui intervient souvent ici sur les potentiels soucis concernant certains de ces produits, peut-être mal vendus, mal expliqués et dont la valeur s'est quand même passablement dégradée. Eh bien, les autorités de régulation commencent à regarder ça de près. Et on va en parler avec nos déchiffreurs du jour, Mark Templeman de Cashbee et Charlotte Tamer de Shares. On parlera aussi retraite et puis du coup de la canicule, tiens, cette saison. Arbitrage aussi sur les marchés actions avec Dorian Abadi de Meilleur Taux Placement. Vos petites small et mid caps chéries, on en reparlera aussi dans le journal des small et mid tout à l'heure avec Eric Lewin de Bourse Direct, avec évidemment un dossier incontournable, l'introduction du slip français en bourse prochainement. Et puis deux sujets, alors super intéressant, fin d'émission, déjà une jurisprudence Jean-Pierre Foucault. Oui, Jean-Pierre Foucault, la star de la télé, qui concerne votre patrimoine et sa fiscalité. Super sujet préparé par François-Xavier Sœur de Terrail, je vous en dis pas plus, mais on va apprendre tout un tas de trucs. Enfin, comment trouver des jeux d'occasion, le fameux secteur du rétro gaming, hein, dont on parle assez souvent dans l'émission, des BD rares. Le tout au Crédit Municipal de Paris, chez ma tante, comme on dit, laissé en prêt sur gage. Des fois, on peut tomber sur de véritables pépites. Une vraie source d'opportunité pour le collectionneur avec des visées patrimoniales, clairement. Rendez-vous en fin d'émission dans le coffre-fort avec Nicolas Chouat de CCR. Il était venu nous parler d'œuvres d'art qu'on retrouve parfois au Crédit Municipal et qui constituent une source d'opportunité pour les collectionneurs. Et là, on parle donc rétro gaming et BD rares. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par email. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Nous envoyez un SMS au 732-16, mot-clé business suivi de votre message, puis sinon directement sur mes comptes Twitter ou LinkedIn, et puis j'essaie de vous répondre en cours d'émission. Le reste de l'actualité du jour, il n'y aura donc pas de nouvelles contraintes pour les entreprises à ce stade dans la gestion de la canicule. Le ministre du Travail a réuni patronat et syndicats hier soir. Il apprenait au cours de ce rendez-vous l'application des mesures déjà en place avec des contrôles renforcés. L'électricité rétablie dans le Finistère. Près de 120 000 foyers avaient été privés de courant au cours de ces 24 dernières heures après une avarie de transformateur liée à la chaleur, événement qualifié d'atypique par RTE. Coup de tonnerre pour les utilisateurs de Binance en France. La plateforme leur a annoncé suspendre ses activités dans le pays le 30 juin, dans 5 jours. Faute d'obtention de l'agrément MiCA, la fameuse licence européenne nécessaire pour fournir des services crypto. Alors, ce sera pas un écran noir, le trading ne sera plus possible, mais la conservation si, entre autres. Et le patron de Binance s'est dit hier en quête d'une nouvelle voie pour obtenir les autorisations nécessaires en Europe. En France, une nouvelle grosse opération pour Alan, le néo-assureur qui lève 480 millions d'euros pour atteindre 5,5 milliards de valorisation avec l'entrée à son capital du fonds néerlandais Prosus. Vous savez, c'est le fameux fonds néerlandais qui est actionnaire très significatif de Tencent, le chinois très présent dans la high-tech. Alan, qui avait déjà une importante trésorerie, espère ainsi pouvoir accélérer encore plus vite son internationalisation. Et puis le lancement de l'introduction du slip français en bourse, vous en avez beaucoup entendu parler ce matin chez Laure Closier dans Good Morning Business, le fabricant de sous-vêtements qui veut lever 5 millions d'euros à l'issue de son opération d'introduction. Première cotation sur Euronext, ça ne s'invente pas, 14 juillet prochain. Tous les détails dans le journal des Small et Mid Cap tout à l'heure avec Eric Lewin de Bourse Direct. Tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Restez connectés à l'actualité économique en téléchant l'application BFM Business. Regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. BFM Business, première sur l'écho.
Tout pour investir, le tableau de bord.
On est reparti, on est bien reparti du côté de Paris qui a échappé à la consolidation générale des places européennes en clôture hier. On a terminé en hausse et on continue notre chemin en hausse. Alors une hausse modérée, plus 0,33% à 8412 points. Du coup, on sous-performe ce coup-ci un petit peu le reste de l'Europe boursière avec un Eurostoxx 50 qui gagne 0,6%. Mais à noter que Madrid est quasiment inchangé à plus 0,14%. Et voilà, on a des performances assez disparates, mais le CAC 40 est dans la course. À noter, l'Euronext était Leaders qui gagne 1,4%. On sent que la tendance s'est vraiment retournée du côté du secteur technologique et particulièrement du côté des semi-conducteurs, parce que le gros événement après la clôture de Wall Street hier soir, c'était quand même les résultats de Micron Technologies, un spécialiste des semi-conducteurs très sollicité évidemment par l'écosystème IA. Les résultats étaient totalement spectaculaire, très au-dessus des attentes, les perspectives aussi. Et ça, ça a provoqué une hausse de 10 à 13% du titre en après-bourse. Alors, logiquement, ça stimule l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Regardez STMicroelectronics qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 3,9% à 65,83€. Et Soitec qui prend 7,6% à 115,45€. Oui, mais Soitec a perdu 11% hier, hein, parce qu'il y avait des prises de profit dans l'anticipation de ces nouvelles et on sentait que la tendance était à nouveau largement négative du côté de la tech américaine. Donc beaucoup, beaucoup de volatilité, mais cette fois le balancier repart dans le bon sens, donc avec Micron qui sera une superstar à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, avec sans doute un accueil en fanfare, hein, de ses performances encore une fois majuscules. Sinon, on a une belle performance de secteur un petit peu plus traditionnel. Accor gagne 2,7% à 51,38€ et dans le luxe, Kering se détache bien, plus de 51 à 272€. À noter Hermès, bon soutien à la cote, qui gagne 0,98% à 1645€. À la baisse, on retrouve Total Energy, moins 1,27 à 68,63€. Mais oui, parce que ça continue d'être compliqué, hein, sur les cours du pétrole. Forte pression à la baisse. Alors, c'est une bonne nouvelle de manière générale pour l'économie. Et voilà, ça ne fait pas les affaires des pétroliers qui constituent toujours des grosses pondérations dans les indices, et particulièrement à Paris. Le Brent, 72,79$, 69,29$ pour le brut léger américain. Secteur de la défense qui est vendu aussi, notamment Thales qui perd 2,7%, plus forte baisse du CAC à 219,30€, et Exel Technologies, moins 4,5€ à 94,50€. Dans le même ordre d'idée, on a les opérateurs satellites qui sont vendus, hein. Eutelsat, moins 3,7€ à 2,24€, et SES, moins 3,7€. À 6,68, le CAC donc plus 0,36%. On entame bien cette séance, 1,1365 pour l'euro-dollar, on reste toujours sur les niveaux de correction. Il y a eu une correction spectaculaire sur le Bitcoin hier soir. On remonte un petit peu, mais enfin, on sent que c'est difficile. On est passé très légèrement sous les 60 000$ pendant un moment. On remonte à 61 000$ là ce matin, mais enfin, on sent qu'il y a des dégagements assez massifs. Et puis, du côté de l'once d'or fin, ben, même problématique. On était passé légèrement sous les 4 000$ l'once hier en séance. On repasse légèrement au-dessus à 4 004$, mais on sent que vraiment le roi en ce moment, c'est le dollar. Et sans doute pour un bon petit moment. Tout de suite, on déchiffre l'actualité du jour.
Tout pour investir. Le déchiffrage.
Un été chaud, bien entendu, un été volatile. On sent qu'il va se passer des choses, hein, avec la volatilité sur les marchés à cause de différents sujets qui nous préoccupent. On est avec Charlotte Hammer de Shares. Bonjour.
Bonjour.
Et Marc Templeman de Cashbee. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous. Donc oui, la canicule, on va en reparler du coup de la canicule. Je voudrais juste qu'on fasse un petit focus ce matin et c'est tout à l'honneur de Karen Lormregen qui intervient souvent autour de cette table, qui nous avait mis le nez dessus il y a quelques mois sur la problématique des produits structurés. Ils ont été vendus, on va pas dire à tort et à travers, mais massivement par beaucoup de réseaux bancaires et de distribution de produits financiers ces dernières années. Oui, mais voilà, dans les produits structurés, il y a un peu tout. C'est le gratin de poisson dans le film The Big Short. C'est d'ailleurs très, très bien expliqué. Et souvent, il y a des produits sur lesquels il y a des problèmes. On a beaucoup parlé des produits où il y avait une sorte de mono-exposition à certaines actions, et notamment à Stellantis, et ça a provoqué une très forte dégradation. Mais il y a certaines stratégies qui sont maintenant un petit peu en question. Et on n'est pas les seuls à s'en poser des questions. Il y a l'AMF qui commence à s'en poser, enfin le régulateur qui commence à se poser des questions sur ces produits structurés. Est-ce qu'on peut parler un petit peu Ils ont émis des recommandations, hein, c'est ça, sur ce dossier?
Oui, alors il y a, en fait, ils sont dans l'œil du collimateur, tout simplement parce que la collecte en moins de 2 ans a doublé. Je crois qu'on est passé d'une vingtaine de milliards d'euros collectés à plus de 40 milliards collectés en 2025.
Vous ouvriez un compte, vous cherchiez un produit qui marche. Le banquier, le premier truc qu'il vous proposait ces deux dernières années, c'était des produits structurés.
Et puis ça correspond bien, je dirais, à la mentalité, à la psychologie de l'épargnant français, parce qu'en fait, généralement, alors c'est pas le cas de tous les produits structurés, mais le produit structuré va apporter une sécurité, voire un capital garanti qui parle, auquel l'épargnant français est tout de suite réactif. On lui parle sécurité. Donc forcément, c'est un peu comme la logique du fonds euro, avec un espoir de rendement qui est quand même un peu plus important. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes capé sur la perte, vous êtes capé aussi sur la rentabilité. Et on l'a vu sur des années assez fastes sur les marchés financiers, où on voit que les produits structurés en moyenne peuvent rapporter autour de 7-8 % annuels, hein, ce qui est loin d'être mauvais. Mais généralement, quand on le compare aussi à une performance de marché, on s'est rendu compte certaines années que lorsque les produits structurés performaient sur 8 % de rentabilité, le marché, lui, pouvait en faire 24.
Eh bien oui, et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que c'est le double des avantages. C'est-à-dire que, premièrement, on ne profite pas à plein des performances. Deuxièmement, c'est des produits qui marchent bien quand le marché est relativement tranquille avec des dynamiques qui se dessinent bien. Mais dans un marché aussi incertain que celui-là, ça ne marche pas forcément aussi bien.
Non, ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire qu'on parle d'un espoir de rendement, mais généralement, le rendement n'est pas garanti. Mais je pense que Marc pourra rebondir sur le sujet. Et le problème, c'est qu'on est face à des produits qui sont de plus en plus complexes, que les conseillers eux-mêmes ne savent pas expliquer.
C'est ça, oui.
Très clairement, parfois il faut relire 2, 3 fois, 4 fois la fiche produit quand elle est lue. Et en fait, on va jouer sur ce symptôme, sur cette notion de sécurité, en fait, pour le donner au client. Et le fait est, c'est que le client n'a pas toujours les tenants et les aboutissants de ce qu'il est en train de souscrire.
Exactement.
Et parfois, il est un peu étonné au résultat, sachant qu'aussi sur ce type de produit, en fait, on a aussi des problèmes de liquidité. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, je dirais, produits structurés ou autres produits tendance, parce qu'on marche quand même par tendance sur les marchés, malheureusement, ce qu'il faut, c'est bien avoir en tête que chaque produit a des avantages et des inconvénients. Mmh. Et moi, la recommandation que je donnerais aux épargnants qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que bon, les avantages, généralement, ils conviennent à tout le monde. Hein. Enfin, rentabilité, qu'importe les avantages, mais ils vous conviennent. Ce qu'il faut, c'est être en adéquation aussi avec les inconvénients d'un placement. Est-ce que c'est un problème de liquidité? Est-ce que c'est un problème de perte en capital? Il faut être capable de l'assumer. C'est comme bien ça sûr. Qu'on mène à bien en fait un investissement sur le long terme. Et donc, quand c'est pas exposé à l'épargnant final au démarrage, c'est difficile d'en avoir conscience et donc de faire un choix éclairé.
Du coup, l'AMF et puis d'autres autorités de régulation émettent des recommandations. On est peut-être allé un peu loin dans le marketing, ce qui est très curieux, c'est qu'encore une fois, The Big Short, c'est un film, pas tout le monde a regardé, mais où c'est très bien expliqué. Et c'est précisément à cette époque-là que les produits structurés ont explosé, dans les réseaux bancaires, chez les courtiers. On vous vendait regardez, c'est génial. Et on passait 95% à vous expliquer comment c'était génial parce que c'est à la fois sécure et en même temps performant. Et on passait 5% du temps à vous dire, vous regarderez vite fait les petites lignes. Il y a des tas d'effets cliqués. Il y a des tas de stop loss. Il y a des tas d'instruments techniques. Là, si on soulève le capot, qui donne un petit peu le vertige, et il était peut-être temps de commencer à faire le ménage là-dedans.
Alors, tout à fait, et je pense que si l'AMF et l'ACPR, pour citer le deuxième régulateur, ont publié un rapport commun pour mettre en garde non seulement la clientèle finale, mais surtout les intermédiaires pour qu'ils fassent leur job de façon convenable, et j'y reviendrai, c'est sans doute parce que dans les mois qui vont suivre, les deux régulateurs vont faire des contrôles. C'est typiquement comme ça qu'ils opèrent.
Oui.
Et donc, je pense que c'est une mise en garde de l'industrie de juste bien faire le métier. Et bien faire leur métier, selon l'AMF et selon l'ACPR, c'est un, comme vient de le dire Charlotte, de bien expliquer les risques et de les expliquer tout aussi bien que les avantages qu'un produit structuré peut procurer. Deux, de ne les proposer qu'à des gens dont on peut estimer qu'ils peuvent avoir une place logique dans leur portefeuille et qui peuvent en effet comprendre de quoi il s'agit. Et donc, l'ACPR et l'AMF insistent sur le fait que rien que dans la commercialisation des produits, il faut que l'intermédiaire fasse des choix et puisse montrer qu'il a eu une politique de ciblage d'une clientèle dite avertie, qui est censée bien comprendre les techniques qui sont parfois effectivement, enfin les mécaniques qui peuvent être relativement complexes. Le troisième aspect sur lequel ils reviennent, c'est le fait de aussi être transparent sur les commissions. Parce que on comprend à peu près tous qu'il y a, en retour d'un gain maximal qu'on s'impose, on a une certaine protection à la baisse. Donc ça, je crois que ce principe-là, on l'a bien capté. Ce qu'on n'a peut-être pas toujours compris, c'est que les intermédiaires, dont fait partie le CGP, le distributeur que je suis, carte sur table, bien, il y a des commissions qui sont prises sur le produit.
Ce qui est assez contre-intuitif dans le sens où, alors, c'est pas un ETF, un produit structuré. Non. Enfin, il peut y avoir de l'ETF dans un produit structuré. Bref, on va pas rentrer dans la cuisine. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a à la fois un produit financier, mais aussi tout un tas de mécanismes de couverture, tout un tas de mécanismes d'amortissement des pertes. On pourrait se dire, tout ça peut être fait automatiquement. Pourquoi on va payer des frais? Qu'est-ce que...
Les frais se défendent, et juste pour être clair, la CPR ne sont pas contre les frais, ils comprennent parfaitement...
L'important, c'est qu'ils soient toujours justifier sa plus-value, hein, c'est une vieille règle de l'économie.
Et surtout que les frais soient relatifs aux gains visés, que ce soit une proportion qui soit juste. Alors pareil, il n'y a pas d'indicateur très spécifique sur vous ne pouvez pas facturer plus de X, mais en tout cas, les régulateurs... de façon parfaitement naturelle, disent il faut plus de transparence sur le sujet, parce que comme vous dites, comme il y a beaucoup de mécaniques à l'intérieur d'un seul produit, ben, il y a beaucoup d'intervenants, ça peut être les salles de marché des banques, l'émetteur qui est souvent une banque elle-même, l'intermédiaire qui s'appelle le structureur qui met tout ça ensemble, et puis le distributeur qui vient rajouter, enfin qui fait ses travaux, et ces travaux-là peuvent parfaitement être rémunérés. Mais le vrai sujet, c'est d'être, un, d'être transparent, et deux, d'être juste sur les commissions par rapport aux gains visés.
Bon, il va y avoir des retombées de tout ça, hein, parce que c'est clair que c'est, en plus, c'est un produit vraiment qui a été vendu un petit peu à tout le monde. Et voilà, faut pas
c'est
non
pas
plus.
C'est le summum de la transparence.
Voilà.
Si on se dit les choses clairement, après ce que disait Marc, on est sur des produits quand même très complexes.
Oui.
Qui regorgent de multitudes de stratégies financières qui, cumulées les unes aux autres, finissent par être chères. Enfin, c'est pas, tout ça n'est pas gratuit.
Les ruisseaux font les grandes rivières. Hein.
Voilà. Le problème, c'est qu'on est dans un effet de masse où tout le monde veut aussi avoir sa part du gâteau. Il y a des abus, enfin, comme partout. Hein, on pourrait ne pas viser que les produits structurés. Et surtout, le manque de transparence, qui parfois n'est pas tant lié au fait de vouloir cacher les frais, mais dans l'incapacité de certains conseillers à expliquer le produit qu'ils sont en train de vendre.
Oui, ça peut arriver, hein, parce que honnêtement, on n'est pas tous des caïds.
Bien plus souvent, je pense, sur le sujet, bien plus souvent qu'on ne le pense.
Sans doute. On va parler des retraites. Livre blanc de l'AFG qui date de la fin du mois dernier. Non, pas du tout de la fin du mois dernier, il date d'il y a quelques jours. Ouais, voilà. C'est tout frais et ça rejoint un petit peu les dernières enquêtes concernant l'état d'esprit des futurs retraités. À savoir, bon, de toute manière, il va falloir en passer par la capitalisation parce que le système par répartition n'est plus assez performant. En revanche, ce qui apparaît dans les autres enquêtes d'opinion, c'est d'accord, il y a cette prise de conscience. Ça donne pas forcément envie aux futurs retraités de repousser l'âge de la retraite, du tout. Donc, finalement, ça rend encore plus urgent la CAPI.
Tout Charlotte. À fait. En fait, l'AFG, qui est l'Association française de gestion, a émis un livre blanc sur en fait le devenir des retraites, et elle montre en fait ce qu'on constate tous, il y a un vieillissement démographique qui est quand même assez important. Je crois qu'on passe entre 2006 et 2026 de 16% de la population qui a plus de 65 ans à quasiment 23% en 2026. Donc les gens vieillissent, on sait qu'il y a moins de naissances. Donc tout ça fait que le système, enfin par répartition, va devenir caduque à un moment donné. Alors la vision, elle n'est pas demain, hein. Je crois qu'on arrive en 2070, on a encore quelques années devant nous, et puis c'est vrai que quand on parle retraite, vous parlez à un jeune actif qui rentre sur le marché aujourd'hui, vous lui parlez de sa retraite, alors certains sont concernés, mais clairement pas tous, déjà que je dirais que les à 40 ans, on ne l'est pas toujours, alors à 25 ans, c'est quand même un petit peu compliqué, on pense plus à sa liberté, peut-être à acheter une résidence principale, que qu'à sa retraite. Mais on se rend compte que, aussi, le ratio de dépendance démographique, en fait, il est de plus en plus fort aussi, puisqu'il passe d'une vingtaine de pourcents à quasiment 40% dernièrement.
Puis ça, c'est le genre de bobo, on met un pansement dessus, le bobo, il s'en fiche, la tendance, elle est inscrite, elle est en train de mordre les chiffres.
Et a priori, vu les chiffres sur la démographie, on n'est pas du tout, on est en train de s'enfoncer dans ce silo-là, et on n'est pas du tout en train de faire marche arrière. Et même si ça faisait marche arrière, le temps que ça produise ses conséquences, il y aurait quand même toute une tranche de la population pour qui ce serait compliqué.
Ouais.
Et en fait, ce qu'on constate aussi dans la littérature financière aujourd'hui, dans les études qui sont faites, c'est qu'en fait, un portefeuille diversifié à moindre coût, aujourd'hui, permet en fait de battre la croissance économique. En fait, on le sait, l'argent, c'est bien d'avoir de l'argent de côté, autant faut... Encore faut-il que cet argent travaille selon le coût de la vie, non pas pour devenir millionnaire, mais juste pour conserver son pouvoir d'achat.
Ne serait-ce que ça, oui.
Pas d'amalgame sur le sujet. Et finalement, on se rend compte que la capitalisation pourrait être une solution. Alors, il y a eu cette retraite sur le PER, il y a eu cette réforme de la loi Pacte il y a déjà quelques années, où on nous avait promis des fonds de pension à l'américaine, comme dans les pays anglo-saxons. Et
ça,
puis finalement.
Pas, ça, faut pas rêver.
On s'est rendu compte. Alors, faut pas rêver. Ce que montre l'étude, c'est que finalement, il faut s'approcher des systèmes qui existent aujourd'hui à l'international. L'idée n'est pas d'opposer la capitalisation et la répartition, de les associer.
Voilà.
Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en complémentarité, en fait, d'un système par répartition, on pourra avoir un système de capitalisation qui fonctionne. Vous me direz, il existe déjà. Là, l'idée, ça va être de le rendre obligatoire. C'est-à-dire que pour les salariés du privé, on va user et disposer des dispositifs d'épargne collective, que sont notamment le PERCOL. Alors, il y a le PER individuel, le PER collectif, et puis le PER obligatoire dont on parle assez peu. Et finalement, cette épargne retraite obligatoire, elle existe aujourd'hui déjà dans ce qu'on appelle le PER obligatoire, qui est le troisième compartiment du PER. Et assez bizarrement, je trouve, c'est l'ancien article 82, article 83, c'est des dispositifs qui sont réservés aux cadres supérieurs qui ont un peu moins besoin de compléments de revenus à la retraite. Enfin, c'est pas ceux qui nécessitent le plus ce dispositif. Donc aujourd'hui, il est réservé plutôt à une élite. On le retrouve de plus en plus un petit peu dans certaines sociétés, mais ça reste encore très discret. Et en fait, là, l'idée, ça va être à l'instar des dispositifs internationaux qui existent. Ouais. Vous avez les Pays-Bas, vous avez au UK, vous avez dans pas mal de pays où en fait une part du salaire va obligatoirement. Alors là, il parle de la participation de l'intéressement. Oui. Moi, je pense qu'on devrait même encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'une part du salaire dans votre package salarial devrait être obligatoirement versé dans un dispositif pour la retraite, en fait, et permettre aux gens, en fait, sans avoir le choix, entre guillemets, de qu'est-ce qu'on verse, qu'est-ce qu'on fait, etc., la possibilité de verser un peu plus s'ils le souhaitent, mais en tout cas de verser un minimum et qui viendrait compléter le régime par répartition.
Oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher du côté des CalPERS, des énormes fonds de pension anglo-saxons. Moi, je connais un truc qui est vieux comme mes robes, qui s'appelle Préfonds, des trucs de la fonction publique, qui sont des véritables fonds de pension qui marchent très très bien d'ailleurs, et qui pourraient être élargis d'une certaine manière. Pourquoi pas justement en élargissant le cadre de l'intéressement, de la participation, peut-être une partie du salaire du secteur privé.
Et moi, je suis un grand fan du facteur temps, qui joue évidemment en faveur de n'importe quel placement, notamment les placements à long terme et peut-être plus risqués, mais qui visent des rendements moyens sur le long terme, bien plus élevés.
Exactement,
aussi. Et pour rebondir, c'est justement les personnes qui rentrent dans la vie active, qui ont 25 ans, 30 ans, et qui, à juste titre, on peut les comprendre, ne réfléchissent pas, ne se sentent pas concernées par la retraite, qui le sont le plus. Ouais. Et donc, de les forcer ou d'automatiser, plutôt que d'utiliser des verbes un peu contraignants,
d'automatiser
la mise de côté d'une partie de leur salaire sur des actifs plutôt risqués, dont on sait que les rendements moyens sur le long terme sont plus élevés et bien plus élevés que l'inflation. C'est une excellente idée, parce que effectivement, quand on aborde ce sujet-là avec quelqu'un justement de cet âge qui a le bénéfice du temps devant lui, rarement le sujet des retraites devient un sujet passion, un hobby. Et donc, d'automatiser tout ça, c'est une excellente idée.
Pourquoi pas avec des produits structurés, ça nous permet de reboucler.
On peut bien expliquer. Après, il y a quand même un travail, et c'est important le point que vous soulignez là. Ouais. En fait, il y a quand même un travail sur l'épargne collective aujourd'hui. Il y a un peu de mieux qui est fait parce qu'il y a quelques réformes successives. Mais finalement, il y a aussi tous des dispositifs à revoir, à la fois dans les actifs qui sont éligibles à l'épargne collective, mais aussi dans la tenue de compte de ces dispositifs. Parce qu'encore une fois, c'est comme une voiture, il faut aussi regarder le moteur, comment ça fonctionne.
Regardez sous le capot, je le dis souvent.
Voilà,
ça,
certaines sociétés s'y a-t-elle à moderniser, à automatiser toutes ces fonctions-là pour réduire le coût, pour rendre plus fluide en fait toutes les opérations qui se passent dans ce type d'épargne. Mais en tout cas, la capitalisation permettrait de maintenir des taux de remplacement équivalents aujourd'hui, avec une bonne diversification des actifs et des frais assez réduits, ce qui est même un peu les bases de l'investissement. Permettrait pas forcément de réduire l'âge de départ à la retraite, mais en tout cas de maintenir un taux de remplacement. Et je pense que ça, c'est quand même essentiel pour les générations actuelles et à venir.
Puis de stabiliser l'ensemble du système, c'est évident. Marc Templeman, Cashby, Charlotte Tamer de Shares, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin pour déchiffrer l'actu. Tout de suite, les arbitrages de court terme sur les marchés actions.
Tout pour investir. Arbitrage.
Et on rejoint Dorian Abadi de Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian. Un petit coup d'œil sur le CAC 40. Ben, on est reparti à la hausse, plus 0,39%, tranquillement au-dessus des 8400 points. Mais sur un petit peu plus long terme, on va dire qu'on a une tendance relativement indécise.
Bonjour Antoine. Ben, bonjour. Effectivement, puisque sur la semaine, la performance du CAC est complètement neutre. Donc, vous l'avez dit, on a effectivement ce petit regain d'intérêt pour le risque, cette petite hausse aujourd'hui. Mais finalement, il ne se passe pas grand-chose sur la semaine. Et puis, assez traditionnellement, on peut déjà se dire qu'on commence à rentrer dans la trêve estivale des marchés, puisque les volumes sont assez réduits pour le moment. On a quand même symboliquement un retour du CAC aux alentours de 2,5% de son record historique qui avait été atteint en février, juste avant le déclenchement de la guerre en Iran. Donc pour le moment, on sait que les acheteurs devraient viser à court terme, hein, dans les prochaines séances, les 8440 et surtout le seuil symbolique des 8500 points que nous n'avons pas réussi à franchir ces tout derniers jours et qui est vraiment déterminant pour la poursuite de la hausse à court terme. Et puis à l'inverse, donc les vendeurs, eux, cibleraient plutôt les 8370 et 8345.
Bon, on a les seuils. Est-ce qu'il y a un actif en particulier qui retient votre attention? Il y a quand même ces derniers jours quand même pas mal de trucs qui se passent autour de l'euro-dollar, hein, qui s'est installé sous 1,14. Bon, il y a le Bitcoin qui a eu un énorme coup de mou hier soir, qui essaie de s'en remettre, mais enfin, on sent que c'est compliqué. Il y a l'once d'or fin qui est sur le fil des 4000. Ouais. Il y a le Brent du côté du marché pétrolier qui poursuit sa consolidation à 72,50 €. Globalement, autour de ça, il y a une problématique et c'est quand même celle du dollar.
C'est celle du dollar, bien sûr, avec donc les craintes, hein, toujours les mêmes, de hausse de taux au niveau de la Fed dans les prochains mois. Donc en fait, on a un cocktail un petit peu avec trois ingrédients actuellement. C'est ces craintes au niveau du dollar, effectivement, d'autant que cet après-midi, nous allons avoir le PCE Core, donc la mesure d'inflation préférée de la Fed, hein, qui sera déterminante, en tout cas pour spéculations, je dirais, à court terme. On ne craint pas, dans l'immédiat, hein, une hausse des taux, ce serait plutôt pour les trimestres à venir en fin d'année. Et puis, cocktail également alimenté donc par cette baisse du pétrole, qui reste, bien sûr, très... très sous-tendu, hein, par les négociations en cours entre Iraniens et Américains, parce qu'il faut toujours rappeler que l'accord qui a été signé n'est que préliminaire, hein, pour le moment, il n'est absolument pas définitif. Et puis toujours l'IA, les semi-conducteurs. Hier, donc, on a eu de bonnes perspectives au niveau des Américains, Micron et Qualcomm, qui soutiennent un petit peu la tendance et l'appétit pour le risque ce matin, puisqu'on a STMicro qui signe la meilleure performance du CAC. On est aux alentours de 3,80% de hausse, hein, quand même sur le titre aujourd'hui. Alors il faut rappeler qu'on se rapproche quand même des 200% de hausse sur l'action française depuis le début de l'année. Pour notre part d'ailleurs, on a rehaussé nos objectifs de long terme, hein, avec nos clients sur STMicro. Pour les plus prudents, on a quand même conseillé de prendre des bénéfices d'après une telle hausse absolument historique. Et avec une vision un peu plus long-termiste, on vise carrément au-dessus des 90 € de titre dans les trimestres et années à venir sur le spécialiste donc des semi-conducteurs côté européen.
Effectivement, puis c'est aussi une séance face pour Soitec, hein, qui gagne 7,6%, 115,50. Soitec qui gagne pas loin de 400% depuis le 1er janvier. Hein. C'est vrai qu'il y a des violentes phases de prise de bénéfices quand il y a des mauvaises nouvelles. Tiens, il y a JP Morgan qui a réussi du double son objectif de cours sur Micron Technologies. Mais c'est vrai qu'il y avait des bonnes nouvelles à arbitrer. C'est celle qui anime le marché, hein, principalement aujourd'hui. Ça doit faire une belle ouverture du côté de Wall Street. Hein, le titre en après-bourse, après publication de ses résultats, de ses perspectives, gagné entre 10 et 13%. En attendant, le CAC, il gagne 0,37%, 8416 points. Merci Dorian Abadi. On se retrouve dans quelques secondes après une petite pause pour la suite de Tout pour investir. On va parler de la jurisprudence Jean-Pierre Foucault. C'est pas une blague, non, c'est très très sérieux et ça peut avoir de très lourdes conséquences financières. François-Xavier Sœur de Terrail avec nous dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
On va ouvrir la boîte à outils, ça s'est passé il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier. Grosse jurisprudence autour de la réglementation et de la fiscalité sur le patrimoine qui touche un confrère, Jean-Pierre Foucault, une superstar de la télé, hein, depuis des années, très très connu, mais qui va devoir faire face à un redressement fiscal absolument massif. François-Xavier Sœur de Terrae, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc voilà, vous n'avez pas osé, nous on l'a osé. Qui veut rembourser des millions? Jean-Pierre Foucault, évidemment. Ouais, mais la jurisprudence, elle est claire, précise. Et voilà, elle doit en mettre en garde certains. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus, même à certains niveaux de haut patrimoine.
Exactement, parce que Jean-Pierre Foucault est quand même allé jusqu'à la Cour de cassation pour tenter de faire annuler sa condamnation fiscale.
C'est un moment que ça dure, ouais.
C'était pour des choses qui remontent aux années 2011 à 2017, donc du temps de l'ISF, donc avant que Macron ne mette l'impôt sur la fortune immobilière. Et on parle quand même d'un redressement de 470 000 euros. Alors c'est un gros redressement, c'est pas le plus gros que j'ai vu passer non plus, hein, il faut pas exagérer, mais ce qui est intéressant, c'est en fait quelles leçons on peut en tirer, parce qu'en fait, même si l'ISF n'existe plus, c'est très actuel. En fait, les conséquences qu'on peut en tirer, les enseignements qu'on peut en tirer sont très actuels, notamment pour le pacte Dutreil. Puisqu'en fait, ce qui a été fait à l'époque était ce qu'on appelle un Dutreil ISF, on va l'expliquer.
Ouais.
Mais le Dutreil Transmission, qui pour le coup est actif et qui a même été renforcé lors de la dernière loi de finances, a un objectif qui est extrêmement clair pour les chefs d'entreprise qui pourraient nous écouter, c'est Il y a un risque lorsqu'on a une société, c'est qu'en fait, lorsque le chef d'entreprise s'en va, elle ne survive pas à son créateur. Et il y a, je crois, 50% des PME et ETI qui ne survivent pas
souvent,
au départ ou au décès de son fondateur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? À l'époque, Renault Dutreil, a fait ce dispositif qui permet en fait de diminuer les droits de mutation à titre gratuit. Donc, on a la possibilité de transmettre une société avec beaucoup moins de frais. Et ça permet justement d'assurer la transmission du capital, donc potentiellement de préserver des emplois et malgré tout des rentrées fiscales pour l'État avec une société qui tourne. Ce qui s'est passé pour Jean-Pierre Foucault, c'est qu'en fait, il avait fait ce qu'on appelle un Dutreil ISF.
Donc, d'accord.
Faut peut-être réexpliquer un
peu. Réexpliquer techniquement ce que c'est.
Parce que l'ISF à l'époque, donc pour rappel, quand on faisait les déclarations ISF, parce que j'en ai fait à l'époque, et c'était pénible, je peux vous le dire, fallait lister tout le patrimoine immobilier comme on fait aujourd'hui, mais aussi tout le patrimoine financier. Donc on allait lister les voitures avec les plaques d'immatriculation, l'année et combien c'était, etc.
Oui.
Les petits livrets, les petits comptes, les bijoux, etc., etc. Et il y avait des exonérations, comme on a aujourd'hui, notamment sur les biens professionnels. On dit l'outil professionnel, c'est notamment illiquide, donc on ne va pas commencer à taxer quelque chose qui est illiquide.
Puis ça tient de la représentation, d'un certain nombre de choses.
Ça revient dans le débat, hein. Il y en a qui ne sont pas contre. Mais bon, en tout cas, c'est exonéré, et aujourd'hui, ça l'est encore. Et à l'époque, il y avait notamment des conditions qui... Voilà, il fallait détenir au moins 25% de la société, quand c'était, enfin voilà, des questions cotées, non cotées, fallait une fonction de direction, fallait une rémunération, etc. Et quand on n'était pas sûr de tout réunir, on faisait ce qu'on appelle un pacte Dutreil ISF, qui avait pour objectif, on s'associait avec d'autres associés, on s'engageait à détenir les parts, etc. Mmh. Et ça permettait de le sortir de son ISF, donc de ne pas être taxé à l'ISF dessus, quand on avait plus d'1,3 million d'actifs nets taxables. Mais, et c'est là-dessus qu'il y a le gros mais, et c'est une phrase qu'on retrouve dans énormément de dispositifs fiscaux. Il faut que l'activité soit à prépondérance, soit d'une façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Donc, dans le cas présent, c'était une activité de production, donc c'est bon.
Bah oui, c'est industriel, j'allais dire, oui.
Mais prépondérant. Et c'est là que le bât blesse.
Oups.
C'est là que le bât blesse, puisqu'en fait, dans la société de production, qui je crois s'appelait Parasol Production, c'était une boîte de prod, en fait, il y avait énormément de trésorerie. Puisqu'en fait, tout simplement, c'est une boîte qui avait de l'ancienneté. Pour le coup, c'est pas, sont d'accord, hein, c'est pas un délinquant, Jean-Pierre Foucault. Hein.
Non, on est d'accord.
C'est pas de la fraude.
On est sur.
C'est pas de la.
C'est ça.
C'est pas quelqu'un qui a planqué des revenus. C'est pas quelqu'un qui a essayé de. C'est quelqu'un qui est un chef d'entreprise, qui a réussi, qui a eu des revenus, tout simplement, dans sa société, du résultat et qui l'a gardé dans sa société. Et en fait, il en a gardé beaucoup.
Et à partir de quel moment on considère qu'il y a un... Parce que oui, effectivement, Jean-Pierre Foucault, c'est une industrie à lui tout seul. Il a fait beaucoup de chiffres d'affaires. Ces sociétés de prod ont beaucoup de trésorerie. Quand est-ce qu'on considère qu'il y a un excès de trésorerie? Parce que c'est bien ça qui est dans le viseur. Là.
C'est là-dessus qu'on est allé jusqu'à la Cour de cassation. En fait, c'est tout.
C'est exactement
c'est
ça.
C'est tout, parce qu'en fait, il n'y a aucune définition. Il n'y a pas de seuil normal qui est marqué quelque part dans la loi.
C'est comme les surprofits ou les profits excessifs.
Superprofits encore, il y avait ce côté politique dans le terme de superprofits
qui a été
très instrumentalisé. Mais,
oui, mais
en
là,
tout cas, c'est un faisceau d'indices qu'on va regarder. Et c'est ça qui s'est passé. Il y avait d'un côté les arguments des avocats de Foucault. Les avocats de Foucault, ils disaient, le chiffre d'affaires de la société provient d'une façon très majoritaire de l'activité de production. Et c'est vrai, le chiffre d'affaires de la boîte, c'est essentiellement le chiffre d'affaires issu de l'activité de prod. Les investissements, parce qu'en fait, il y avait des investissements de patrimoniaux, j'ai envie de dire, qui avaient été faits à côté. Ces investissements-là représentaient une toute petite partie du chiffre d'affaires. Donc, les avocats
peut-être un peu
disaient,
d'immobilier, de
moyens
de production.
Oui, essentiellement des placements financiers. Il y avait des placements dans des énergies renouvelables, il y avait des choses comme ça, qui avaient des côtés défiscalisants. Enfin voilà, il y a eu quand même des choses assez patrimoniales qui ont été faites quand on regarde.
Donc là, ça, d'accord.
Et en fait, les avocats de Foucault disaient, la majorité du chiffre d'affaires, c'est issu de la société de prod, et la trésorerie est issue de l'activité de prod.
Oui.
Donc en soi-même,
de bonne foi.
C'est du professionnel, donc exonéré. Mais le fisc a dit, et c'est là qu'elle met, la trésorerie représente 6, selon les années, 7 à 9 fois le chiffre d'affaires. Donc il y avait quand même une très très grosse trésorerie.
Et à partir de là, suspicion.
15 à 27 fois le bénéfice annuel. Donc quand vous devez faire 15 fois le bénéfice annuel pour reconstituer la trésorerie, et en fait ce que disait le fisc, il dit, ça ne suffit pas dans le faisceau à ce que ça représente. Vous pouvez avoir une trésorerie qui représente 15 ou 27 fois le bénéfice annuel. Mais si en plus, dessus, vous ne pouvez pas justifier que cette trésorerie sert aux besoins de la société, parce que vous pouvez avoir une grosse trésorerie qui, par exemple, va servir de nantissement pour faire des prêts à des filiales.
Oui.
Vous pouvez être en train d'acheter, je ne sais pas moi, une machine-outil absolument énorme, l'avoir commandée, pas encore l'avoir payée. Enfin, vous voyez, oui, il y a exactement. Des choses comme ça qui justifient d'avoir une trésorerie exactement. Pléthorique.
Ouais.
Donc, ça, ça se discute. Mais en plus, parce qu'il y a encore un plus,
ouais.
C'est qu'en fait, il a voulu avoir cet avantage du trail ISF. Et en fait, quand on additionne des avantages fiscaux de transmission ou fiscaux ISF à l'époque, avec le fait de un peu détourner l'esprit de la loi, parce qu'en fait, l'esprit de la loi dit on vous donne un avantage fiscal,
ouais.
À condition que ça soit des sommes qui n'aient pas été distribuées parce qu'elles servent à l'activité
parce
économique.
Parce qu'elles sont productives.
Et en fait, c'est le fait, et c'est ça que les gens doivent retenir s'ils nous écoutent.
D'accord.
Si on devait avoir un dernier mot.
Oui.
Accumuler de la trésorerie, ce n'est pas interdit.
Non, bien sûr que non.
Ce qui est interdit, et c'est là que le juge a dit, il y a un faisceau d'indices qui est cohérent, c'est de la trésorerie qui n'est pas utile à l'activité économique, combinée avec un avantage fiscal qui soit d'exonération ou de transmission.
Et donc, il nous reste une minute. Quelles sont les décisions qu'il faut prendre pour éviter ce genre de déconvenue ?
Dans le cas présent, soit on se dit je vais développer ma boîte et prendre des participations, racheter des concurrents, développer, donc véritablement avoir une activité, la trésorerie qui doit être investie massivement.
Ouais, qui doit bosser, ouais.
Ou alors elle doit être distribuée et payer de l'impôt.
D'accord.
Ou alors vous créez une holding au-dessus de votre société économique, vous remontez cette trésorerie dans votre holding si vous ne voulez pas qu'elle soit soumise à l'impôt sur le revenu. Il y aura juste un frottement fiscal très léger de régime mère-fille. Mais par contre, cette trésorerie au-dessus, si jamais on avait encore l'ISF, elle serait soumise à l'ISF. Vous ne pourriez pas l'exonérer dans le cadre d'une transmission du trail ou dans le cadre d'un du trail ISF si ça existait encore. Donc il y a plein de dispositifs qui existent.
Bon.
Mais il ne faut pas en abuser.
Bon. Écoutez, c'était d'une clarté évangélique parce que le dossier est technique, mais super important. Effectivement, Jean-Pierre Foucault qui nous donne l'occasion d'en parler. Merci infiniment, François-Xavier Seurre, pour encore un éclairage extrêmement intéressant. Et on va se consacrer au journal des Small et Mid-Cap à présent.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Éric Lewin de Bourse Direct, bonjour.
Bonjour, mon cher Antoine.
Ouais, j'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit focus sur Jean-Pierre Foucault et la fiscalité. Franchement, c'était super intéressant.
Ouais, c'est vrai.
En tout cas, super technique et super instructif. Alors, nos indices small et mid, les petites chéries des actionnaires français. Comment ça se passe du côté des indices? On sent quand même une grande indécision du côté du CAC 40. Sur les small et mid, est-ce qu'on sent un petit peu plus de dynamique, comme on peut voir, par exemple, si on compare les indices américains au Russell 2000? Est-ce qu'il y a une forme de dynamique un petit peu supérieure en cette fin de saison haletante, là, du côté des small et mid cap françaises?
Non, pas du tout. C'est très très calme. On perd 1% sur tous les indices cette semaine, CAC small, CAC mid and small, de sorte qu'ils sont flat depuis le début de l'année. À noter quand même, j'ai envie d'en parler, l'IPO du slip français,
bien sûr,
hein, qui vient d'être lancé, acteur iconique du Made in France, des sous-vêtements, les vêtements d'équipement. On a une levée de fonds de 5 millions d'euros avec également une cession de la part de fonds d'investissement de 7 millions d'euros. L'opération, ça va faire autour de 13 à 14 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà 7 millions d'euros de levée via, par exemple, Eiffel ou encore la société Chantel. Le prix de l'offre, 14,80€ par action. Souscription du 25 juin au 8 juillet. Boîte qui est pas mal, hein. J'ai rencontré la dirigeante. 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Marge d'EBITDA, on est à 10%. Marge d'exploitation à 6,2%. J'aime bien ce genre de petites boîtes françaises. On a tellement critiqué le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de boîtes dans l'industrie et qu'il n'y avait que de la tech ou encore des biotech. Finalement, bonne petite boîte. L'argent, il sera consacré à quoi? Montée en puissance industrielle, l'accélération commerciale et marketing et bien évidemment l'amélioration du BFR. Cotation le 14 juillet, le style français, le 14 juillet, ça me paraît logique.
Bah oui.
Ça devrait marcher, il devrait y avoir du succès sur ce dossier.
Bon, on va suivre ça. On avait d'ailleurs le fondateur qui était en direct ce matin dans Good Morning Business avec Laure Closy, il était en direct du Palais Brongniart. Bon. On lui dira que c'est aussi du côté d'Euronext que ça se passe et que c'est important. Maison du Monde. Oups, ça se passe mal, toujours mal. Et il y a de la dilution en vue pour les actionnaires.
Ameublement, décoration, la grande problématique, moins 36% sur la semaine, capitalisation revenue à 10 millions d'euros, dilution qui sera massive. Alors, il y a deux fonds qui s'appellent Alteri et Dico. Ce sont des fonds anglais de ce qu'on appelle des fonds de retournement. Eux, ils ont décidé de restructurer la boîte. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'un actionnaire qui a 1% du capital n'aura plus, à l'issue de cette opération, que 0,05%. Il faut dire, mon cher Antoine, que les comptes sont cata. Chiffre d'affaires en baisse de 5,4% à 947 millions d'euros l'an dernier. Ça va encore, mais alors la perte nette, 406 millions d'euros avec 350 millions d'euros de dépréciation. Le TR est en recul de 2,8%. À noter que les deux fonds ne veulent pas lancer d'OPA et ne veulent pas de retrait de cote. Ils ont demandé une dérogation à l'AMF, mais dossier compliqué. Ça vaut 28-29 centimes. On touche, mais alors surtout pas ce dossier parce que ça reste compliqué. Et je vous le dis, recapitalisation massive pour les actionnaires existants.
Eric, on va aussi parler de deux dossiers, deux vedettes de la cote là en ce moment. Alors, peut-être commencer par Trigano qui est en train de connaître une très belle séance. Hein. Le titre gagne 4,5% à 139,80€. Puis dire un mot d'OVH aussi, notre cloud souverain, notre cloud français.
Alors on commence par Trigano, oui, ouais. Trigano, 4,8%, on est dans les camping-cars bien évidemment. Alors chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre en progression de 1,6%. Pourtant il y a un petit ralentissement hein, parce qu'on avait une croissance de 6,2% sur le premier semestre, mais finalement les investisseurs s'en fichent un peu. Sur 9 mois on a une croissance de 3,5%, à noter qu'il y a deux choses intéressantes. Un, il y a une politique de rachat d'actions, déjà 300 000 actions rachetées sur les dernières semaines, qui sera poursuivie sur les prochains mois. Et puis deux, l'action qui a perdu 24% depuis le début de l'année est vraiment bradée au cours actuel avec un PER de 9. Donc même si la publication n'est pas géniale, les investisseurs se disent que finalement, le dossier mérite d'être mis en portefeuille. Et puis notre ami OVH, qui est devenu la plus forte capitalisation du CAC Small avec 2,5 milliards grâce à une hausse de 120% depuis le début de l'année. Et ben, le troisième trimestre a été satisfaisant, croissance de 7% de son chiffre d'affaires à 290 millions d'euros, croissance sur 9 mois à 6%. C'est le cloud public qui tient l'activité avec une croissance de 20%, Antoine, à 65 millions d'euros. Et puis les objectifs sur l'année sont confirmés, croissance organique entre 5 et 7%, assortie d'une marge d'EBITDA supérieure à l'exercice précédent. Le titre perd 8,3% aujourd'hui. Certains investisseurs pensaient qu'il y aurait peut-être une croissance un petit peu plus forte, mais vous savez, elle a tellement progressé, je vous rappelle, 108% depuis le 1er janvier, 30% en un mois, 70% en trois mois, 110% en six mois. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des prises de bénéfices sur ce dossier qui reste le meilleur moyen, le meilleur vecteur, le meilleur véhicule pour jouer la souveraineté européenne. Ça reste un très beau dossier qui est en tout cas la plus forte capitalisation du CAC Small.
C'est ce que j'allais vous dire, Eric, parce que OVH, bon, on les connaît, j'étais même à Euronext le jour de l'introduction, il y avait Octave Klabat, etc., tout ça. En fait, cette dynamique qui était censée être vraiment régulière, inextinguible et claire comme de l'eau de roche, la souveraineté, le cloud, etc., finalement, ça a été des années très compliquées. Et là, il y a du potentiel qui se libère, mais en même temps avec la conscience qu'on est dans un marché de requins et qu'OVH est encore très petit. Est-ce que c'est ça qui empêche aussi le titre d'avoir son plein potentiel de croissance?
Bah écoutez, non, en fait, depuis le retour d'Octave Klabat il y a quelques mois, on sent vraiment que les investisseurs reviennent sur ce dossier. Et en fait, pourquoi le titre a stagné depuis des années, quasiment depuis l'IPO? C'est parce qu'il n'y avait pas tellement de motifs de s'esclaffer. On pensait vraiment que le cloud américain, les Amazon, Google allaient complètement tout disrupter. Et finalement, on se rend compte que avec Trump au pouvoir, avec le fait que, par exemple, sur une boîte comme Anthropic, on limite la portée pour les Européens, ben, que se disent les investisseurs? Eh bien, on veut des sociétés purement européennes, des sociétés sur des secteurs européens qui permettront de damer le pion aux Américains. Et donc c'est pour ça que OVH, depuis 6-7 mois, retrouve les faveurs des investisseurs. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques années de vaches maigres sur ce dossier.
Bon, mais c'est peut-être enfin fini. Et tout à l'honneur d'Octave Klabat, en tout cas, la confiance des investisseurs est là. Merci infiniment, Eric Lewin de Bourse Direct, d'avoir commenté cette actualité chaude encore pour les small et mid cap cette semaine. Une petite pause du côté de TPI. On revient dans quelques secondes et on va parler rétro gaming, on va parler bande dessinée. Et ouais, qu'on peut trouver des sortes de pépites qu'on peut trouver au Crédit Municipal de Paris. Ah oui, un débouché comme une autre et une vitrine intéressante pour tout un tas de collectionneurs à visée patrimoniale. On est en direct avec Nicolas Chouat de CC Art dans un instant, tout de suite. Bon, et bien on va y aller. Rendez-vous chez ma tante. Rendez-vous au Crédit Municipal. Nous sommes avec Nicolas Chouat de CCR. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous avait retrouvé il y a quelques semaines pour parler art et pour découvrir, via les prêts sur gage, des découvertes absolument hallucinantes qu'on peut trouver, qui sont laissées en gage pour des arrangements financiers. Alors, on a beaucoup parlé art, et puis il y a deux secteurs que vous regardez de plus en plus, parce que les clients regardent ça de plus en plus.
C'est ça.
C'est la valorisation du rétro gaming,
donc
des consoles et des jeux anciens.
Exactement.
Et de la bande dessinée. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on reçoit assez souvent les spécialistes d'Interenchères, les spécialistes de la seconde main et tout, qui nous parlent beaucoup du rétro gaming. Vous aussi, c'est un truc, vous voyez défiler des consoles, des vieilles PlayStation, des vieilles Nintendo.
Absolument. Je crois que ça attire de plus en plus aussi les jeunes collectionneurs qui s'intéressent en fait aux actifs tangibles. Et puis il faut pas se leurrer, en fait, il y a l'effet nostalgie qui joue à plein. C'est-à-dire qu'en fait le rétro gaming, ça va vraiment concerner les jeux vidéo et les consoles grosso modo de la fin des années 70 au début des années 2000. Mmh. Les gens qui ont été jeunes dans les années 80-90, ils arrivent sur une maturité financière qui leur permet maintenant de pouvoir collectionner, et puis surtout en fait sur ces on va dire sur ces actifs qui sont moins classiques comme la BD ou le rétro gaming, ouais. Il y a une gamme de prix qui est extrêmement large, donc en fait ça peut vraiment concerner tous les patrimoines, toutes les bourses, et c'est ça qui est agréable.
Oui, parce que finalement, c'est un petit peu comme le marché de la seconde main, c'est un peu comme les enchères, c'est un petit peu comme certains intervenants qui viennent ici, qui nous disent finalement le nerf de la guerre, c'est ce sentiment qu'on a quand on est un petit peu installé dans la vie. Le premier truc qu'on fait, c'est peut-être un truc de mec, c'est de vouloir se payer ce qu'on n'a pas pu se payer quand on était petit, parce que les parents avaient peut-être pas assez de sous. On veut retrouver ses vieilles Jordan, on veut retrouver sa vieille Nintendo, et on veut l'avoir à la maison. Et est-ce que c'est pas ça le...
Clairement, il y a ça.
Ouais.
Et il y a aussi, il y a le côté aussi nostalgique de retrouver peut-être, par exemple, pour une planche de BD, pas la BD, mais la planche originale. Et puis, en fait, personne à garder, même si, en fait, il y a le plaisir d'avoir ce qu'on n'a pas pu avoir, mais il y a aussi le plaisir de retrouver. C'est-à-dire que la plupart de ces objets, on les a pas gardés. Et donc pouvoir s'offrir une console ou un jeu comme Super Mario, etc., ça joue à fond, clairement. Alors après, il y a quand même vraiment des choses à garder en tête pour aussi se faire plaisir, mais bien acheter.
Oui. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, vous avez dit le mot magique, Super Mario. On a tendance à beaucoup parler du rétro gaming. Alors, on a fait venir des intervenants qui nous parlaient de choses extrêmement pointues, de premières éditions de certaines consoles Sega, etc. Est-ce que Nintendo, ça reste quand même le support le plus commun quand on a des visées patrimoniales, je dirais, sur le rétro gaming, ou est-ce qu'il y a des marques qui commencent à un petit peu plus rentrer dans le patrimoine commun, j'allais dire?
En fait, dans le rétro gaming, le jeu et la console sont des éléments importants, mais c'est pas l'élément le plus important. Dans le rétro gaming, ce qui va être le plus important, ça va être l'état de l'objet ou du jeu.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez soit le jeu est seul, et là, dans ces cas-là, ça a une valeur qui est moyenne, soit il est complet avec sa boîte et son manuel, là ça vaut beaucoup plus cher, ou sinon il est sous blister et là c'est un carton plein.
Oui.
Et en fait c'est l'élément qui est presque plus important que le jeu ou la marque. Vous pouvez avoir un Super Mario qui est loose, donc nu, qui vaudra moins cher que quelque chose qui est un peu moins connu, mais qui est sous blister. Parce que là, c'est la rareté qui joue à fond, en fait.
Ah, complètement. La BD, c'est quelque chose de très très spécifique. Et je dois vous confesser que j'ai absolument aucune culture dedans. J'ai eu des BD quand j'étais jeune, quelques collections, mais là, pour le coup, on est peut-être sur des niveaux de valorisation qui vont approcher le marché de l'art.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des éditions très rares
il y a des, et vous le dites vous-même, on a eu des Tintins quand on était petit. Bah, si on peut avoir une série originale de Tintin avec, parce que n'oublions pas que suivant les époques, les dessins ont un peu changé,
oui,
ont un peu évolué. Il y a des choses qui apparaissent pas dans les premières éditions ou au contraire qui apparaissent plus dans les éditions d'après. Est-ce qu'il y a une vraie spécialité aussi qui est en train de se constituer autour de ce marché via l'optique prêt sur gage, crédit municipal, mais qui est un creuset de nouveautés pour ceux qui recherchent de la collection?
Oui, alors clairement, le, comme vous le disiez, la BD maintenant c'est vraiment un segment à part entière du marché de l'art. Mais je pense que comme pour toutes ces collections, on va dire accessoires ou qui sont moins normées, il y a quand même des coûts à faire dans la BD. Nous, ce qu'on va regarder, c'est à chaque fois pour l'évaluer, c'est l'auteur. Ça, c'est ultra important. Plus l'auteur est connu, plus ça va valoir cher. Mais surtout, en fait, il faut que ça soit aussi une planche. On parle pas de croquis.
Voilà.
Il faut que ça soit une planche de la BD. Ça peut être une couverture ou une grande illustration au sein d'une BD. Ça, on va appeler ça une splash pages. Et puis, quand c'est une planche, il faut aussi que ça soit un élément déterminant de la BD. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une action iconique? Si on parle de Tintin, est-ce que vous avez Tintin? Si c'est Astérix, est-ce que vous avez les personnages principaux? Il faut pas que ça soit, en fait, ce qu'on appelle une page de transition, une planche de transition qui a nettement moins d'intérêt. Donc pour
oui,
la BD...
généralement, c'est une planche qui illustre un plot twist. Dans les premières éditions de Tintin, je me souviens, il y avait le récit s'arrête et il y a bam, une énorme planche. C'est voilà, Tintin qui sort du vase chinois dans le lotus bleu, ouais. Ou qui cherche des traces dans le tombeau égyptien dans... c'est lequel déjà? Le cigare du pharaon.
Le cigare du pharaon, c'est ça.
Voilà, c'est le plot twist.
Exactement.
Et c'est peut-être ça qu'on va aller chercher justement dans l'édition originale.
Oui, c'est vraiment c'est la planche importante avec les personnages clés et des scènes cultes, clairement.
Et j'allais dire, on a parlé un peu de Nintendo qui a quand même une place prépondérante dans le rétro gaming. C'est Tintin qui fait le marché dans la BD? Non, pas du tout. Il y a d'autres collections qui sont très très recherchées, bah, j'imagine.
Uderzo avec Astérix, c'est ouais, hyper recherché. Les bonnes planches d'Inky Bilal avec toutes les trilogies de Nicopol, surtout quand elles, ouais, sont colorées.
Puis il en a fait. Hein.
Ça vaut une fortune. Ouais. Vous avez Corto Maltese avec donc de Hugo Pratt. Alors Corto Maltese, c'est un petit peu différent. C'est une BD qui est iconique, mais il a beaucoup peint avec une encre qui se délave. Donc ça, l'état de conservation des planches de Corto Maltese, c'est quelque chose de d'ultra important. Et puis après, donc ça c'est Tintin, Corto Maltese, etc. C'est ce qu'on appelle la ligne claire. Vous avez aussi la ligne réaliste qui marche très bien avec des gens comme Giraud et par exemple les Blueberry ou ouais, Van Damme et les 13. Vous avez la ligne semi-réaliste donc avec Uderzo et Astérix. Mmh. Et puis vous avez aussi la ligne Marcinelle qui est plus une ligne humoristique qu'on peut aussi appeler gros nez de temps en temps. Et ça va être des gens comme Gaston Lagaffe avec Franquin ou Achille Talon avec Maurice. Absolument, Achille
Vous
Talon.
Parlez de gros nez, c'est le premier gros nez qui me vient.
Donc voilà. Ouais. Et c'est là en fait où on peut faire des coups parce que dans la BD, mais comme dans le rétro gaming, il y a des effets de mode. Et si à un moment
coup,
on sort un petit peu de l'effet de mode, si à un moment tout le monde veut une si ouais, la ligne claire ouais, est plus recherchée à tel moment que la ligne réaliste, et qu'on est un peu curieux et qu'on aime bien ce genre de choses, et ben justement on peut acheter des pièces qui valent un peu moins cher. Et puis là on parle vraiment du haut du marché, mais il ouais, y a le milieu de marché où pour un peu moins de entre dire 4 et 8, 10 000 euros, on peut trouver des très belles planches, par exemple de Giraud, de Blueberry. Et vous avez l'entrée de gamme où franchement, vous avez des planches qui sont sympas d'auteurs nettement moins connus, ouais, où entre 800 et 1 600 euros, vous avez quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, et vous avez une sorte de sécurisation d'une somme d'argent en fait.
Ouais, c'est une réserve de valeur, hein, toujours.
Absolument.
C'est l'objet de cette rubrique, hein, toujours, et on y revient toujours. Et donc, à retrouver chez CCR, bien sûr,
hein,
qui est tout un écosystème qui est consacré à tout ça. Ben, merci infiniment pour ces focus, donc, sur le rétro gaming et la BD.
Moi, je vous remercie.
Ouais, merci infiniment d'être passé à notre antenne. TPI, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous retrouvez la masterclass avec l'ami Christopher Dembic. Et moi, je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. En attendant, Marie Cœur de Roy, les experts de l'IMO. Tout de suite, à bientôt.
Tout pour investir sur BFM Business.